step. On a terminé la semaine dernière notre série sur la mission. Et pour ceux qui étaient avec nous au cours des deux dimanches précédents, M. Nate Branson et Jean-Marc Bridgman, qui nous ont présenté un portrait parfois de l'Église qui est très, très difficile à croire pour nous dans notre confort nord-américain, de voir des frères et des sœurs qui subissent la violence, la torture, le martyr et meurent à cause de leur foi en Jésus. Eh bien, ce matin, je vais tenter d'avoir un mot d'encouragement comme pour ces premiers chrétiens de l'Église du premier siècle qui vivaient, dès le commencement de l'Église, de grandes difficultés. Alors, je vais utiliser le texte, cette lettre que Paul a écrite à son bien-aimé frère dans la foi, son Timothée, son vrai Timothée aussi, qui voulait en même temps l'avertir de choses, mais en même temps l'encourager. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, on va lire les deux premiers versets. Et par la suite, je vais revenir sur le reste du texte, mais je m'en sers comme tremplin vers quelque chose qui, comme je le mentionnais, vraiment va être un encouragement pour nous tous. Alors, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, et là je vais paraphraser, car viendront des temps difficiles. » Mais je ne veux pas en dire plus parce que je vais y revenir plus tard. Fait que mettez un petit marqueur dans vos Bibles, on va revenir à ce passage. Timothée traversait des moments difficiles au niveau personnel, au niveau de son ministère, au niveau de la condition de l'Église. Et tout cela, sans doute, le fait caler dans le découragement. Tout semble mal aller chez les croyants. Et son père dans la foi, Paul, qui est emprisonné, qui n'est plus à ses côtés, voilà une raison de plus pour aller dans le découragement. Mais Paul utilise cette occasion pour écrire à ce frère de ne pas baisser les bras et que tout allait bien aller un jour dans l'Église. Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Loin de là. Loin de là. Paul voulait bien préparer Timothée au fait que les choses allaient aller de mal en pis. Mais ce n'est pas seulement ce que Paul avait à lui recommander dans le pratico-pratique qui est frappant dans ce passage. Tu sais, comme prêche la parole, reprend, censure, exhorte. Sois sobre, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les choses à faire, l'exécutable, souvent on saute tout de suite sur cette partie du texte. Mais, je voudrais qu'on regarde plutôt dans le verset 1, le passage qu'on vient de lire. L'apôtre Paul qui adjure Timothée en prenant Dieu à témoin. Jésus-Christ, Jésus, aussi au nom de son retour, au nom de son apparition et de son règne à venir. Et comme on dit en bon québécois, mettre plus d'emphase que ça, tu meurs. C'est comme quand il arrive quelque chose de grave, qu'on a été impliqué. Je ne sais pas, il y a eu un feu ou un vol, quelque chose de grave. Et puis là, les gens viennent nous voir parce qu'on est comme impliqué dans l'affaire. Et puis, t'es-tu sûr que t'as barré la porte? Ou t'es-tu sûr que t'as fermé le fourneau? Là, c'est comme, oui, je suis sûr! T'es sûr? Là, on veut vraiment mettre l'emphase, hein? Puis là, oui, je te jure! Je te jure, c'est la tête de ma mère! C'est sûr, écoute, c'est la tête de ma mère, c'est la tête de mon père, c'est la tête de mes ancêtres. Tu sais, là, on en rajoute. Pour être sûr, là, que le message passe que, écoute, c'est sérieux, là, je te dis, c'est vrai, là. Alors, Paul veut vraiment mettre de l'importance, il veut souligner à Timothée ce qui va suivre. Mais aussi que dans ce verset, l'auteur veut faire saisir à tous les serviteurs de Dieu qui souffrent que, premièrement, il va y avoir un jugement et que cette justice-là appartient à Dieu, pas à nous. Et que, deuxièmement, on est aussi rappelé du privilège qu'on a à participer par notre persévérance à la gloire de Christ lors de son apparition et de son règne. Chose certaine, on ne voit pas ça aujourd'hui. On ne voit pas ça. Timothée ne voyait pas ça. Paul non plus. Mais il l'avait vu. Mais il lui a été strictement interdit d'en parler. Mais il y en a un autre qui l'a vu. Et il nous l'a raconté. L'apôtre Jean, avancé en âge, la tradition raconte 80, 90 plus, dernier survivant des apôtres, et malgré le fait qu'il allait connaître une mort naturelle, contrairement à la plupart qui allaient être des martyrs autour de lui, malgré le fait que Jean allait connaître une mort naturelle, il était quand même accablé par la condition des croyants, la condition de l'Église. Et là, on va dans notre texte principal. Tournez dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 9. Apocalypse, chapitre 1. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Alors, c'était peurant, Patmos, il était prisonnier. C'est une vision d'horreur. Paul était prisonnier, il n'était pas en croisière dans les îles grecques. Il était prisonnier à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et au verset 10, Jean raconte qu'il fut transporté, ravi en esprit, un dimanche. Et ça, c'est un beau dimanche, hein? Ça, c'est meilleur que la Saint-Sieste du dimanche après-midi, là. Ravi en esprit. Pendant un temps, dans une vision du ciel. Un coup d'œil. Tchou! Il est allé voir ça. Et là, on lit, hein? On lit ce que Jean voit dans les chapitres 4 et 5. Jean qui a une vision du ciel. Jean qui devait être envahi par des émotions incontenables. Aïe aïe! Comme dirait notre frère Fernand. Mais il n'allait pas garder ça juste pour lui. L'ange lui ordonne de l'écrire. Ben, je comprends, mais je m'imagine à sa place, là, je pense que je l'arrangerais de même. Puis là, l'ange, hey, hey, oublie pas d'écrire. Verset 11. Mais pendant ce temps-là, Jean recevait les instructions à donner aux sept églises. Alors, Jean n'allait pas garder ça seulement pour lui. Et au verset 11, voilà ce que l'ange lui dit. Hein, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le à cette église. » Verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Dans ce que Jean décrit, bon, il y a Il y a plein de symbolisme à traiter, mais ce n'est pas l'objectif de mon message ce matin. Mais comme pour l'apôtre Jean, qui avait besoin d'encouragement, car il y avait des temps difficiles dans l'Église. Le mal était triomphant. L'ennemi semblait gagner la victoire. Dieu ne voulait pas seulement le divertir. Jean, prisonnier à Patmos, et Dieu l'utilisera pour encourager toute l'Église à travers lui, à travers son récit. Et encore aujourd'hui, l'Église en a besoin, car elle passe à travers des difficultés horribles. Horribles! Ceux qui étaient là la semaine dernière, hein, vous avez vu les vidéos. Ça fait broyer. Ça fait pleurer. C'est décourageant parfois de lire, si vous recevez le bulletin de la Voix des martyrs, on lit les histoires. Oui, il y a des encouragements, mais on voit là que c'est pas facile. Vraiment pas. Et c'est là qu'on voit que ça n'a pas changé. Même c'est pire. C'est pire. Selon certaines informations, c'est ce qu'on a entendu. Il y a deux semaines, on était à Québec sur un cours, et c'est ceux qui connaissent bien M. D.A. Carson, un érudit de la parole et qui a fait une parenthèse dans son enseignement, et justement, il a bifurqué sur l'Église persécutée. Et j'aurais aimé avoir sa source, mais on n'a pas eu le temps de lui demander. Mais M. Carson mentionnait, je le cite, là, que les 150 dernières années, en termes de persécution, sont supérieures aux 1850 précédentes, en ampleur, en quantité. Donc, c'est loin de s'améliorer. Et là, Jean reçoit les instructions aux sept églises, mais c'était loin d'être terminé, au chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Une voix lui dit, « Monte ici! » Hein? C'est comme là, il donne un coup de coude. « Hey, Jean, viens voir ça deux minutes. Tu vas voir de quoi. Monte ici. » Jean qui voyait un trône dans le ciel, et celui qui était assis rayonnait de toutes parts. Au verset 8, des êtres vivants autour de lui ne cessaient de dire, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » Malgré tout ce qui se passait sur terre, Jean constatait que Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Le mot trône est omniprésent dans le texte. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, et le trône environné d'un arc-en-ciel. Autour du trône, 24 trônes. Du trône sortent des éclairs. Devant le trône brûlent 7 lampes. Ils jettent leur couronne devant le trône. Au milieu du trône, autour du trône, des trônes partout. Voilà ce que Jean a vu et auquel nous, l'Église, on est invités à participer. Jean, habitué de voir la déchéance, le ravage du péché sur terre, et là de voir une gloire pure et pratiquement indescriptible, Jean concentre sa description sur le trône, le trône, le trône. La majesté d'un trône, là, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui. Même pour moi-même. Là. On entend parler de ça, on voit des films, on voit des reportages. Il y a eu une époque que Jean connaissait bien, un temps où les rois étaient vraiment des rois, les reines étaient vraiment des reines. On comprenait, on savait l'autorité qui était investie dans un trône. C'est une réalité qui nous dépasse aujourd'hui. On voit toutes ces, parfois là, dans les films, les processions des gens d'un royaume qui vont visiter le palais royal. Et là, il y a toute cette procession devant les dignitaires, les chefs des armées, les ministres. Et là, à la fin, le trône du monarque. Et puis là, presque, là, il était averti, là, quand tu vas passer devant le trône, là, regarde les pieds, regarde-les même pas dans la face. Sinon, c'était sérieux. C'est une réalité d'autrefois, mais c'était une réalité. Mais cela n'est rien. C'est rien comparé à ce que Jean a vu, à ce que Jean a expérimenté. Nos monarques d'aujourd'hui, nos présidents, nos ministres, c'est comme des jouets comparés à ça. Le message que Jean recevait, il y a encore quelqu'un qui règne. Dieu, malgré toutes les misères sur terre. L'univers créé par sa parole, pour sa gloire, et il est en contrôle au complet. Voilà ce qu'est un trône. C'est le poste de commandement du royaume. Voilà ce que Jean voyait. Et tous ceux autour du trône lui rendaient gloire. Tous se prosternèrent et lui tirèrent leur couronne à celui qui règne sur tout. Le chef des chefs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain des souverains. Il n'est pas celui qui se ronge les ongles à se demander qu'est-ce qui va se passer ou qui est surpris par une attaque terroriste. Non, il règne. Celui que nous adorons règne. Et il règne au-dessus de tout. Cependant, il y a un aspect de la vision qui est un peu troublante. Et c'est ceci. Et on l'a mentionné ce matin, je pense que c'est Denis lors du partage, que nous, les membres du corps de Christ, l'Église, on ne peut pas demeurer insensible à tous les troubles, à tout le mal qui se passe dans l'Église. L'anxiété, l'angoisse, la tristesse, la mélancolie sont au rendez-vous. On le vit, ça. Hein? Lorsqu'un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Et au chapitre 5, Jean, qui est toujours ravi en esprit, décrit. Chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Jean n'était pas juste anxieux ou inquiet, mais il était effondré en larmes, de voir ses rouleaux que personne ne pouvait toucher. Mais c'est quoi les rouleaux? La Bible ne mentionne pas directement, mais on en déduit hein, que ça a rapport avec qu'est-ce qui va arriver à l'Église. Et comme Jean le décrit un peu plus tard, hein, quand on ouvre un sceau, j'entends ceci, et là il y a les ramifications sur terre. Et j'entends ceci, et là il y a des ramifications. Et j'entends ceci, il y a quelqu'un qui parlait, hein, et là les ramifications. Donc Jean comprenait que la main dans laquelle allaient se retrouver les rouleaux, cette personne-là allait dicter ce qui allait arriver. Voilà donc ce que Jean était accablé de voir ce qui allait arriver à l'Église. C'est un peu difficile pour nous de comprendre parce qu'on a maintenant la révélation au complet et on a un regard en arrière, mais Jean d'où il en était, c'était accablant pour lui de voir la condition de l'Église et même au ciel, de voir que là, il y avait quelque chose de très important qui se passait, puis personne pouvait répondre à l'appel. Ça me rappelle un peu quand mon père, qui, lors de la conscription en 1942, il avait 15-16 ans, et évidemment, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était le sujet de discussion de tous les jours. Les gens allaient écouter les nouvelles à la radio. Ils allaient même au cinéma le soir. Ils passaient des films d'avoir des nouvelles de la guerre. Puis là, les gens en parlaient. Puis, tu sais, c'était toutes sortes de discussions. Qu'est-ce que t'en penses de la guerre? Tu sais, puis ci, puis ça. Lui, il était là. Il n'avait pas été conscrit. Il n'avait pas l'âge. Mais il en parlait beaucoup. Mais la vraie question que les gens voulaient savoir, c'était qui gagne? C'est qui gagne la guerre? Écoute, il entendait là, des villes qui tombaient sous les bombes, des avions qui s'écrasaient, des bateaux qui coulaient. Des morts, des blessés qui revenaient. Du monde amoché là, qui revenait, là, c'était traumatisant. Mais c'était la question. On gagne-tu? Qui gagnera? Et pour Jean, les nouvelles de chaque église qui vont de mal en pire, et déjà l'église ravagée par les faux docteurs, les antéchrists, les gens qui ne croyaient même pas que Christ était venu en chair ou que Jésus-Christ n'avait aucune divinité, ils ravageaient l'Église. C'était une réalité dès le premier siècle. C'est pas pour rien qu'il en parle dans ses épîtres. Sa condition à Jean était probablement semblable à Élie, effondré dans la dépression, caché dans le fond de sa caverne, puis qui dit au Seigneur, « Ton peuple a abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Un roi, 19:4. Désespoir. Jean est envahi par la tristesse, se demandant qui pourra prendre et ouvrir les rouleaux. Mais personne. Personne n'était digne. Ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre. Et il pleurait. Moi, ça m'arrive des fois quand j'ai des rêves un peu traumatisants, puis tu sais, je pleure dans le rêve, puis je pleure. Tu sais, même ça nous réveille. Tu sais, ça vient tellement nous chercher, là, c'est profond. Là. Puis là, on se réveille, c'est comme, oh, c'était pas vrai. Tu sais, là, on est soulagé, hein? Ça vous arrive, hein? Mais il y en a, c'est une réalité. C'est une réalité. Des frères, des sœurs, puis lesquels on prie, puis on les entend, on a des nouvelles, puis ils sont tombés sous les balles, sous les explosions, les guerres civiles, le Boko Haram, le Al-Qaïda. Il y en a, c'est réel. C'est réel pour eux. Et c'est ce que Jean ressentais. Où s'en va cette guerre? Où s'en va l'Église? Est-ce que ce n'est pas une question qui demeure d'actualité encore au 21e siècle pour l'Église? Ce n'est pas de la théorie. Premièrement, la réalité pour nous, hein, c'est de voir autour de nous à quel point les gens sont indifférents aux choses de Dieu. Indifférents. Et Paul qui a écrit à Timothée, hein? On va retourner dans notre texte du début. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Les versets 3 et 4. « Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Est-ce qu'on n'est pas inquiète du glissement, de ce glissement qui se produit dans nos églises? Ah! Les raisons sont tellement nombreuses pour se décourager, de baisser les bras et de laisser l'ennemi être victorieux dans nos batailles, dans notre travail pour le Seigneur, comme pour Timothée, qui vit toutes sortes d'oppositions dans l'Église. Encore aujourd'hui, on constate le peu d'amour que nous avons pour le Seigneur, le manque ou l'absence de victoire dans nos luttes, On voit des divisions parmi les chrétiens, dans les églises. Il y a un nombre record de pasteurs qui abandonnent l'œuvre en Amérique du Nord, en Europe. Les chiffres sont là, c'est terrible. Découragés, dépression. Le péché fait pas seulement du ravage dans l'Église, mais intérieurement dans nos vies personnelles. Et là, ça fait des crevasses, hein? Des citernes crevassées vers nos couples, vers notre communion fraternelle, dans les familles, les enfants. En perdez-vous du sommeil parfois? Est-ce que ça arrive que votre oreiller est mouillé de vos larmes? Où s'en va l'Église? Où sont les voix qui crient la gloire de Dieu dans tout cela? Jean pleure, accablé. On retourne au chapitre 5, Apocalypse. Au verset 5, pendant que Jean pleure, l'un des vieillards me dit, « Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux, et je vis au milieu du trône. » Mais là, Jean ne voyait pas un lion, mais plutôt un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Et ça, je vais y revenir. Au verset 7, « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. L'agneau prend le rouleau de la main droite et tous tombent devant lui. » Avez-vous déjà été dans un endroit où les gens attendent un moment, là? Tu sais, quelque chose de spécial. C'est comme, là, il y a un crescendo, là, dans l'atmosphère, là, puis avez-vous déjà été dans un moment comme ça? Moi, vous en rappelez un, moi. En 1993, finale de la Coupe Stanley. Le petit dénominateur des Canadiens de Montréal, ici. 93. Hey, toute une année, ça. 93, c'était le centième anniversaire de la Coupe Stanley. Le Montréal était dans la finale. Souvenez-vous compte? De Los Angeles. Hey, Wayne Gretzky, là. Mais, Montréal avait un bon coach. Jacques Demers. Mon oncle Jacques. Guy Carbonneau était capitaine. Ça, c'était à l'époque quand les capitaines étaient des vrais capitaines. Et là, évidemment, ils ont gagné. Hein? Ils ont clenché ça en 5 matchs. Victoire, on était à Montréal. Et là, tu sais, écoute, quand ils ont gagné, c'était l'euphorie. Mais là, ils amènent le tapis rouge sur la glace. Et puis là, le commissaire puis les dignitaires de la Ligue, là, ils installent la coupe. Puis là, écoute, là, il y a des flashs. Et puis là, le Canadien s'avance, puis le capitaine. Et puis là, le commissaire, il prend la coupe, là. Hein? Qui est digne de prendre la coupe? Mais ben, les gagnants. Et puis là, il remet la coupe dans les mains là, de Tigui Carbonneau. Hey! Écoute, ça a levé, là, le toit du forum, il a levé. Je connaissais déjà que tu allais, il dit Steph, il dit le toit du forum, pensait ça allait lever. C'était au forum dans le temps. Hein? Centre Bell n'était pas encore construit. Mais ça a levé. Tu avais toute une nation qui était en frénésie. La ville de Montréal était en folie. Là, qui ont démoli des magasins dans le centre-ville. C'était la folie furieuse. C'est comme un moment de frénésie ultime, là, tu sais. Incontenable. Et c'est à ce moment-là que les partisans des Nordiques se sont fait réveiller dans leur sommeil, parce qu'ils dormaient ce soir-là, eux autres. Mais, ils vont me faire des ennemis. Mais ça, là, ça, c'est rien. C'est rien lorsque l'agneau de Dieu fera son approche vers le trône et qu'il prendra le rouleau. les anciens se prosternèrent, les vieillards, les êtres vivants, toutes les créatures se prosternent, et le loup, c'est comme une wave hein, qui part du trône puis qui traverse l'univers. Et je regardais, verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, de milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Quel spectacle! On n'a jamais rien vu de semblable, hein? Mais pourquoi? Pourquoi l'agneau est digne de le recevoir? Notez bien au verset 9. Au verset 9. Toujours au chapitre 5. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Notez bien dans tout cela, Jésus est trouvé digne parce qu'il a été immolé. Golgotha n'est pas une erreur, mes amis. Le triomphe de l'Église est sécurisé par le triomphe de Jésus-Christ à la croix. Par Jésus-Christ, dans son travail, dans sa réconciliation, Père et Fils, dans un pacte de rédemption, le Fils qui prend l'humiliation de la forme humaine, la souffrance, la croix et la pleine pénalité de nos péchés. Pour pouvoir apprécier cela, bien, il faut aller à Golgotha. Oui, il faut y aller. À cet endroit où Jésus a pris notre pénalité. Frères et sœurs, voilà la gloire à venir. Soyons encouragés du fait que rien de tout ce qui se passe ici n'affectera la gloire à venir. Car tout dépend du fait que l'agneau a été trouvé digne parce qu'il a été immolé. Jésus-Christ à la croix, l'agneau immolé, digne de recevoir toute la gloire et toute la puissance. Tout s'est passé à Golgotha. Et comme je le disais tantôt, êtes-vous allé? C'est une drôle de question quand même, hein? Est-ce qu'à un moment donné, comme moi, comme plusieurs ici, vous vous êtes reconnus à un moment donné de votre vie, comme étant un de ceux qui avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables, de se donner une foule de petits docteurs, de gourous qui vous promettent le bonheur, des solutions selon nos propres désirs, de se détourner l'oreille de la vérité, de se tourner vers des fables, vers des substances, vers des festivals à plus finir, afin d'oublier temporairement, engourdir ce mal de vivre, hein? C'est ça le Québec aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'on s'est reconnu? Est-ce que vous vous êtes reconnu et vous êtes allé à Golgotha, au pied de la croix, et de regarder l'agneau immolé et de lui dire, « Au secours! Prends-moi! Prends-moi! Aie pitié de moi! Fais-moi une place! Souviens-moi de moi! Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis! » Il y en a un qui a crié ça. Il était sur une croix à côté. Êtes-vous allé à Golgotha? Bien, il n'y a pas besoin de billets d'avion, hein? Pas besoin de billet d'avion. Juste besoin d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à celui qui, depuis toute éternité, il vous voit du haut de sa croix. Celui qui, depuis toute éternité, il vous aime du haut de sa croix. Celui qui, depuis toute éternité, il vous appelle du haut de sa croix. Pour vous recevoir et vous faire don de sa grâce, don de la foi qui vous sauvera, qui vous transformera et qui vous fera voir sa gloire, celle que Jean a vue, la même. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Sortez d'ici ce matin avec l'assurance de votre salut. Prendre part à cet extraordinaire rassemblement, celui de l'Église, et qui un jour, l'Église, l'épouse, parée, prête à être réunie pour toujours avec l'Époux, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle image, hein? C'est comme Michel dit souvent, c'est romantique. C'est beau. Et Jésus a prié à Gethsémané, dans le jardin des douleurs. « Père, Père, s'il était possible de ne pas prendre cette coupe, mais il savait qu'il allait souffrir. Il le savait. Il n'y avait pas d'autre façon pour que les pécheurs, tels que nous, puissent entrer dans l'éternité. » Il paye la pleine rançon de nos âmes par son sang. L'agneau immolé, taché de son sang royal, pour nous tous. Et ce fut fait et accompli. Accompli. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et la promesse du Père. La promesse du Père à Jésus. Un trône. Un trône d'où il allait régner. Où il allait être dans le siège du conducteur. Et pour Jean, c'était glorieux, avec tout le recul qu'il y avait, de voir cette souffrance, cette persécution, le mal qui allait triompher, et ce coup d'œil dans le ciel, et de voir le Fils, son maître, régner sur tout. Ah! Et puis ensuite, les seaux sont ouverts, comme on lit dans les chapitres 6, 7 et 8. Et là, on voit qui est en charge. On voit qui dirige. L'histoire de la rédemption n'est pas à propos de nous, mais à propos de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore, nous prêchons Christ. Le peuple a besoin de cette vision de Christ exalté. Et de festoyer et de s'en rassasier. Quelle différence d'avoir cette pensée, cette réalité avec nous, qui nous habite, et de penser que, après toute une vie, tellement de choses qui se passent, on a tellement de choses à raconter. Lorsqu'on arrive sur notre lit de mort, et de penser, et d'avoir cette pensée-là qui nous habite, qu'on est sur le point. On est sur le point d'entrer dans cette vision de gloire que Jean nous a donnée. Hey, c'est dur à battre ça. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes dans l'équipe gagnante. Merci Seigneur de ce que Jean ait pu écrire cela pour nous. Prions. Oui Seigneur, qu'il est bon de se rappeler dans toutes ces troubles et ces souffrances, que tu es là et que c'est toi qui règnes et que tu es au contrôle malgré les apparences sur cette terre où le prince du mal, le prince du mensonge fait des ravages. Alors Seigneur, encourage-nous par cette vision de l'éternité dans laquelle, Seigneur, nous serons à tes côtés, loin de tout ce mal, cette tristesse, cette angoisse qui nous habite parfois, et que nous serons avec toi pour toujours, auprès du glorieux, auprès de celui qui règne, le Dieu de toute éternité, Jésus-Christ. Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction ce matin. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, on en a besoin. Et Seigneur, veille sur ton peuple et transforme. Transforme ton Église afin qu'on puisse, Seigneur, vraiment goûter de ton amour et la faire goûter à ce monde qui périt autour de nous. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.